Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Midi News Weekend, une heure d'infos, de décryptage et de débat. Au sommaire de ce samedi 4 mai, cette question: jusqu'où ira la mobilisation d'une partie de la jeunesse pour Gaza? Le mouvement gagne du terrain dans les universités et désormais ce sont les lycéens qui rentrent dans la danse. Malgré la fermeté affichée par le gouvernement, les actions se poursuivent et dérivent aussi. Alors comment y faire face? Quelles conséquences dans les universités? On en parle dans cette émission. On ira également à Châteauroux, où l'émotion est toujours vive, une semaine après la mort du jeune Mathis. Une marche blanche aura lieu cet après-midi, rassemblement sous haute sécurité, nous dit le préfet de l'Indre. Pourquoi? Parce que les autorités craignent des débordements autour de cette affaire ultra sensible et qui pose un certain nombre de questions, notamment autour de la justice des mineurs. Débat à suivre dans cette émission. Et puis on évoquera cette idée issue d'un rapport parlementaire: créer un fonds émeute pour les villes impactées par les violences urbaines. Face aux difficultés de trouver des assureurs, les collectivités pourraient bénéficier d'un fonds sur le même modèle que pour les aléas climatiques. Mais est-ce aux Français de payer pour une poignée de violents? Et surtout, est-ce là l'aveu que l'État redoute de nouvelles violences urbaines à l'avenir? L'auteur de ce rapport sera avec nous dans cette émission. On en débat dans Midi News Weekend. Mais avant de lancer les débats, c'est l'heure de faire un point complet sur l'actualité à la mi-journée de ce samedi avec Isabelle Pibolo. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Fusillade à Sevran en Seine-Saint-Denis, au moins un mort et plusieurs blessés, dont trois graves, sont à déplorer. Peu avant minuit, dans le quartier des Beaudottes, deux individus sont arrivés en voiture sur un parking. Le passager a ouvert le feu avant de prendre la fuite. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade. Une enquête a été ouverte, notamment pour homicide volontaire en bande organisée. Fusillade également dans le nord-est de Toulouse. Tôt ce matin, un homme est décédé, un autre se trouve en urgence absolue. Les faits se sont passés à proximité d'une discothèque dans un quartier excentré de la Ville Rose. Les victimes se trouvaient dans un véhicule quand elles ont été prises pour cible. Le ou les auteurs des tirs ont pris la fuite. Les circonstances du drame restent à éclaircir. Et puis une marche blanche en hommage à Mathis se tiendra cet après-midi à Châteauroux. Le cortège s'élancera à 15h30, place Lafayette. La famille de l'adolescent invite les participants à faire preuve de respect tout au long du parcours. Les habitants, eux, sont très émus. Depuis plusieurs jours, ils multiplient les initiatives en mémoire de l'adolescent de 15 ans. Reportage de Mathieu Devez, Jules Bedeau et Clotilde Payet.
À quelques heures de la marche en hommage au jeune Mathis, l'émotion reste très vive à Châteauroux. Proches, amis ou simples citoyens, ils se tiennent tous aux côtés de la famille. Comme Karim, restaurateur, qui a tenu à rendre hommage au jeune garçon en collant des affiches.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Alors, je viens de mettre l'affiche de la loutre en référence à l'animal fétiche du petit Mathis. Les parents vivent un drame, c'est innommable. Donc il était pour moi normal et logique de demain participer à la marche.
Même élan de solidarité du côté des commerçants.
Alors c'est le livre de condoléances, voilà, pour que tous les commerçants viennent écrire un mot pour les parents de Mathis. En fait, Châteauroux, c'est vraiment une petite ville, donc on se connaît tous et c'est des collègues. Et voilà, c'est vraiment, ça vient du cœur et c'est un soutien discret.
Pour l'adjoint au maire à la sécurité de Châteauroux, c'est toute une ville qui est en deuil.
Derrière l'élu, il y a aussi la nature humaine. On essaye d'accompagner au mieux la famille.
Selon une estimation du préfet de l'Indre, la marche blanche pour Mathis, prévue ce samedi après-midi, doit réunir entre 3 000 et 10 000 personnes.
Et on termine ce journal avec ce portrait touchant, celui de Roger, 90 ans, qui continue d'exercer son métier dans l'Ariège. Pas question pour lui de prendre sa retraite et d'abandonner son salon de coiffure qu'il tient d'une main de maître depuis 57 ans. Le récit de Corentin Braillot.
Bon pied, bon œil et sans trembler, Roger s'exécute avec rigueur et précision. À 90 ans, il est propriétaire d'un salon de coiffure dans l'Ariège et continue du mardi au samedi de coiffer ses clients.
Quand je me lève le matin, je ne fais pas la gueule d'aller travailler.
En poste depuis 1967, Roger a continué de travailler bien après l'âge légal de départ à la retraite. Par passion, mais d'abord par nécessité, pour payer la maison de retraite de sa femme avant son décès.
J'ai continué à travailler à cause d'elle. Maintenant qu'elle est décédée, je pourrais arrêter. Mais je continue un moment encore, après on verra.
À Saint-Girons, il est connu de tous. Les générations sont toutes passées sur les fauteuils de Roger. En plus de se faire couper les cheveux, chez Achille, on est assuré d'avoir toutes les informations.
Si tu ne savais pas quelque chose le matin en te levant, bah, tu peux le savoir ici, quoi. Parce que y a beaucoup de choses qui se sont racontées ici, quoi. Parce que c'est un lieu de passage. Et même si tu viens pas te faire couper les cheveux, tu rentres, tu discutes, comment ça s'est passé, ça a été, enfin voilà.
Aujourd'hui, la réglementation ne prévoit pas d'âge limite d'activité pour les artisans et commerçants. On estime à plus de 525 000 les personnes de plus de 65 ans qui ont un emploi.
Je vous retrouve dans 15 minutes pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, Midi News Weekend avec vous, Thomas.
Merci beaucoup Isabelle et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Pour m'accompagner ce samedi midi, un carré magique, ils sont quatre autour de moi. Laure-Alice Bouvier, avocate, bonjour, merci bonjour. D'être avec nous. Célia Barotte du service police-justice de CNews. Patrice Arditi, journaliste, merci de nous accompagner ce midi. Et Jules Torres, journaliste, bonjour Jules.
Bonjour Thomas.
On va parler tous ensemble d'un certain nombre de sujets. Je vous le disais dans le sommaire, on va commencer avec Sciences Po, avec ce mouvement de protestation des étudiants qui gagnent du terrain parce que ce sont désormais des organisations lycéennes qui appellent à rentrer dans le mouvement avec là aussi des revendications autour de la situation à Gaza. Élément de réponse sur ce qu'on pourrait attendre de ces prochains jours de la part des lycéens avec ce sujet de Solène Boulan.
Après les étudiants français, la mobilisation pour le peuple palestinien va-t-elle gagner les lycées de l'Hexagone ? Sur les réseaux sociaux, l'Union syndicale lycéenne appelle au blocage des établissements.
Bloquons nos lycées pour la Palestine. Dès lundi, nous appelons au blocus des lycées pour un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien. De Columbia au lycée en France, la mobilisation aura lieu.
Dans un communiqué, le syndicat précise les raisons de son appel au blocus.
L'heure est à la mobilisation générale pour stopper le génocide et les 35 000 Gazaouis tués par l'armée israélienne. Depuis le début du mouvement étudiant lancé il y a une semaine, les lycéens sont présents sur les facultés et écoles en soutien aux étudiants mobilisés. À présent, c'est à notre tour d'occuper et de bloquer nos lieux d'études.
À Sciences Po Paris, plus de 90 étudiants ont été délogés par la police hier. D'autres mobilisations ont gagné le pays, comme sur le campus de Reims, Lyon, à la Sorbonne ou encore à l'école supérieure de journalisme de Lille. Face au blocage pro-palestinien dans les universités, Matignon assure de son côté que la fermeté restera totale.
Après les étudiants, les universités, maintenant les lycées. Patrice Arditi, quel regard vous portez sur cette mobilisation possible des étudiants, en tout cas même des lycéens maintenant qui veulent rentrer dans la danse?
Sérieusement, ou on est entre nous?
Les deux.
Il y a des gens qui regardent quand même.
Bon,
j'espère.
Franchement,
on reste entre nous.
Franchement, les lycéens qui copient les étudiants, ça s'est toujours vu. Tout le temps. Quand il y a une manifestation d'étudiants, et il y a tout le temps des manifestations d'étudiants, j'ai un certain âge, un petit peu plus que vous, j'en ai connu je ne sais combien. Ça commence par des monomes, et ensuite il y a des choses qui sont beaucoup plus sérieuses, comme ce qui se passe actuellement. Les lycéens qui suivent, c'est pratiquement normal. On va avoir 2-3 porte-paroles qui s'expriment extrêmement bien, et qui ont une idée véritablement de ce qui se passe, et puis on a ce que j'appelle, je m'en excuse, des moutons. Et d'ailleurs, je me demande même quand le primaire va suivre. Parce que franchement, dans les maisons, dans les familles, on doit discuter, bien sûr, de ce qui se passe. Et c'est extrêmement grave, ce qui peut se passer. Aussi bien la cause qu'ils essayent de défendre, mais d'une façon maladroite, que les appels au rassemblement divers avec des gens qui ne sont pas toujours des étudiants. Parce qu'il faut vraiment le dire et le redire.
Laure-Alice Bouvier, on voit que le mouvement prend plutôt de l'ampleur alors que le gouvernement tente justement de restreindre les blocages, en tout cas à lever des blocages cette semaine. Malgré tout, on voit que ça prend du terrain à la fois dans les universités, maintenant potentiellement dans les lycées.
Alors, je rejoins tout à fait Patrice. Effectivement, les lycéens suivent ce que font les instituts d'études politiques. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ce mouvement, il ne s'étend pas en Europe. On l'a en France, on l'a aux États-Unis, et en réalité, c'est Sciences Po qui a donné le là, parce qu'il faut quand même rappeler que Sciences Po, depuis Richard Descoings, c'est une école qui s'est voulu américaniser. Hein, et c'est aussi la raison pour laquelle ils suivent cette institution et pour laquelle on a ces éléments. J'aimerais aussi rappeler que, en fait, à Sciences Po, c'est quand même particulier, c'est peut-être aussi pour ça que les lycéens aussi le suivent, c'est-à-dire qu'on a cette culture américaine, et à Sciences Po, on n'a plus, avant, il s'agissait de faire sortir des énarques de Sciences Po. Aujourd'hui, le cursus service public de Sciences Po pour les énarques, il est réduit à peau de chagrin. C'est plus du tout ce qu'on fait. Ces étudiants, ces lycéens, ils ont certainement l'impression d'agir pour une bonne cause. Évidemment que c'est une bonne cause. Enfin, personne ne nie la crise humanitaire à Gaza. Ça, c'est une évidence. Simplement, je regrette encore une fois qu'on n'ait pas de débat apaisé. On a eu plusieurs étudiants juifs qui ont voulu proposer hier un débat apaisé justement pour en parler, et c'est ça dont on a besoin, parce qu'on a une société qui se bipolarise aujourd'hui et avec deux camps, et on n'arrive pas à trouver une solution.
Avec surtout une poignée d'étudiants qui bloquent, avec une majorité silencieuse qui ne peut pas accéder aux cours, Jules Torres. C'est ça aussi qui se déroule dans les
facs. C'est le commun de toutes les petites révolutions, c'est-à-dire que tout ça est quand même assez pitoyable à Sciences Po. On l'a entendu dans le sujet de votre journaliste, c'est 90 personnes qui bloquent les manifestations des lycéens. Vous avez parlé d'un syndicat de lycéens. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait représentatif de ce que sont aujourd'hui les lycéens en France. Donc oui, en fait, que ce soit à l'ESJ Lille, à Sciences Po, dans les universités françaises ou dans les lycées, c'est le fait de petites minorités qui agacent la grande majorité des étudiants qui sont là pour faire leurs études, pour pouvoir accéder à des connaissances. Et c'est ça qui est terrible dans toutes ces histoires, c'est que c'est le lot d'une minorité que tout le monde exècre en fait.
Avec une intolérance qu'on voit aussi dans le mouvement, je voulais vous montrer une image avant de poursuivre le débat. Certains tentent d'aller à l'encontre des personnes qui bloquent les universités. Hier, il y avait un rassemblement devant le Panthéon à Paris avec des manifestants pro-Gaza, et des membres de l'UNI, un syndicat étudiant que vous classera plutôt à droite, sont venus avec des banderoles, et vous les voyez à l'image, notamment cette banderole « Hamas égale terroriste ». Et voilà ce qui s'est déroulé, leurs banderoles ont été arrachées au bout de quelques secondes par des manifestants. Alors, plusieurs lectures à cette image. D'abord, l'intolérance, ça va de soi. Et surtout, le fait d'arracher une banderole sur laquelle est écrit « Hamas égale terroriste », est-ce que ça veut dire, Patrice Arditi, que d'une certaine manière, ces personnes qui sont venues arracher les banderoles estiment que le Hamas n'est pas terroriste?
Probablement, mais une fois de plus, c'est une infime minorité de personnes qui commettent ce genre d'actes. Mais il y a une espèce de jeu, là. Les personnes qui ont les affiches savent très très bien qu'on va les arracher. Vous avez vu, il n'y a pas d'échange de coups. Bien entendu, c'est un espèce de jeu affreux. Dégueulasse, mais d'un côté, on essaye de montrer ce que pensent les autres, et vous venez de le dire, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que le Hamas n'est pas un amas d'individus terroristes, et puis il y a ceux, évidemment, et je crois que ça doit être les trois quarts du monde, qui savent très très bien que ce sont des terroristes.
Alors, Alice Boulier, vous voulez réagir sur ça ?
Oui, tout à fait. Je pense que ces jeunes, ils sont aussi victimes d'intérêts politiques, c'est-à-dire qu'ils sont clairement instrumentalisés par LFI, qui jettent de l'huile sur le feu. Ils sont de fait aussi, de facto, instrumentalisés par le Hamas. Et on voit qu'il y a les lycéens, du coup, qui se mobilisent également. Moi, ça me fait dire aussi que ce serait intéressant, même fondamental, de redonner des cours d'éducation civique dès l'école pour expliquer aux élèves les tenants et les aboutissants des différentes problématiques et leur montrer qu'en réalité, ils n'ont pas tous les éléments pour arriver à comprendre. Nier que le Hamas, c'est un groupe terroriste, c'est quand même assez grave.
Alors on parlait du syndicat. Allez-y.
Puisque les adultes, et vous venez de parler de LFI, affirment que ce ne sont pas des terroristes, oui. Comment voulez-vous que les gens beaucoup plus jeunes, des personnes en devenir d'adultes, puissent penser le contraire? Vous disiez que le LFI mettait de l'huile sur le feu, mais c'est carrément une boîte d'allumettes.
Ah bah oui, c'est limite la guerre civile ensuite. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faudrait leur donner des cours à ces jeunes. Il y a eu une étude, il y a eu une étude
sur les économistes.
Pour cela, c'est peut-être trop tard.
Pour le primaire,
mais pour les
oui.
prochains, ce serait bien de réinstaurer des cours d'éducation civique. Dans les universités, dans les années 70, on avait des cours de sciences politiques, de sciences économiques. Enfin, on avait un ensemble d'éléments. Alors, et même plus jeunes, je pense que dès le vous parlez du primaire tout à l'heure, mais c'est vrai, je pense que dès le primaire, on doit expliquer aux jeunes ce que sont les institutions, ce qu'est la communauté internationale, en des termes simples. Bien évidemment, mais les sensibiliser, c'est important.
Le problème de l'idéologie, c'est qu'elle ne se soigne pas, et je ne suis pas sûr que c'est en leur donnant des cours de pédagogie, d'éducation civique qu'on règle ça. Ces gens-là, ce sont des militants politiques ce sont des militants politiques. Les représentants de l'ordre des lycéens, les représentants à Sciences Po, ce sont des militants politiques, ce sont des personnes qui bâtissent leur combat politique sur une idéologie. Et le problème de l'idéologie, c'est qu'elle ne, par définition, elle ne change pas, et qu'on est prêt à accepter certaines choses qui sont au-delà de la raison. Et c'est pour cela que ça ne sert à rien. Les étudiants sur Sciences Po, on ne va pas leur donner.
Sur la réponse à apporter, justement, on a interrogé ce matin sur le plateau d'Eliott Deval un représentant de l'UNI, Yvan Lecoz, et lui, il pointe directement la responsabilité du gouvernement. Écoutez-le.
On a d'abord un gouvernement qui est laxiste. Et des organisations de gauche et d'extrême gauche qui jettent de l'huile sur le feu. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'un seul responsable, le gouvernement. Parce que le gouvernement est aujourd'hui complice de ces organisations. Et, je l'ai dit hier encore, on voyait l'UNEF, Union étudiante, soutenir le fait qu'on arrache des affiches Hamas égale terroriste. Il faut dire que l'UNEF est subventionné chaque année à hauteur de 400 000 euros par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et je ne parle même pas d'un rappel à l'ordre.
Il
faudrait baisser ces subventions. Il faudrait les couper.
Alors dire que le gouvernement est complice, c'est peut-être un peu dur, surtout que Matignon a plutôt fait part de sa fermeté. On peut peut-être dire que Gabriel Attal est un peu seul sur le dossier, ça c'est autre chose, mais en tout cas le gouvernement a voulu montrer une forme de fermeté, Laure Alice Bouvier.
Oui, j'irais pas dire complice, parce qu'on a bien vu que Sciences Po a été quand même évacué dans l'ordre, hein. Il n'y a pas eu de heurts, les policiers se sont bien comportés. Simplement, je pense que moi, j'attends beaucoup de Gabriel Attal sur cette question-là, et c'est là où je rejoins pas Jules, mais on n'est pas toujours d'accord, parce que je pense, heureusement d'ailleurs, parce que non, il n'y a pas de débat, parce que je pense vraiment que expliquer aux jeunes, il manque aujourd'hui, les jeunes n'ont aucune éducation,
ils ne lisent plus. À Sciences Po.
Oui, mais vous voyez les études qu'ils ont à Sciences Po, ils ont des cours de droit commercial, ils ont des cours de droit des affaires, ils n'ont plus les mêmes cours que ceux qu'ils avaient avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport au gouvernement, on s'aperçoit que en réalité, le gouvernement, je dirais pas complice du tout, je dirais plutôt attentiste. Prenons l'exemple de Sylvie Retailleau, par exemple, qui d'abord a commencé par dire. C'est bien, il n'y a plus de sanctions, etc. Elle a subi les lésirs de beaucoup de personnes. Elle a fait marche arrière. Là, j'ai envie de dire qu'on a un gouvernement qui, en tout cas pour elle, qui n'est pas sérieux et qui n'est pas courageux. Quand on accepte un poste de ministre, on accepte aussi d'en subir les conséquences et on accepte de prendre des positions. C'est quand même le but. Et pas. Il n'y a que Valérie Pécresse qui a dit « je tape du poing sur la table, j'enlève les subventions à Sciences Po ». Mais ça pénalise aussi les élèves qui, eux, travaillent.
Cette minorité qui prend le pas sur la majorité silencieuse. Jules Torres, la ligne du gouvernement, elle est plutôt claire si on suit Gabriel Attal. C'est vrai que lorsqu'on va vers les ministres en charge des dossiers... C'est un peu plus flou, finalement.
C'est tout le problème, à chaque fois, dans cet exécutif et dans ce gouvernement. C'est la différence entre les propos qu'ils se veulent plutôt martiaux et le manque de réponse. En effet, Sylvie Retailleau, qui a accepté, même ses couchées, on peut le dire, la ministre de l'Enseignement supérieur, lorsqu'il y a eu cet accord entre Sciences Po et les militants qui bloquaient Sciences Po la semaine dernière. On entendait la petite musique là en début de semaine selon laquelle Emmanuel Macron pourrait taper du poing sur la table sur Sciences Po. Pour l'instant, on n'a rien vu, donc c'est sûr que Gabriel Attal est bien seul. Mais moi, ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est l'indulgence qu'on a pour des responsables politiques comme la France Insoumise, qui en effet ont chauffé à blanc ces personnes-là, des personnalités comme Rima Hassan, qui est septième sur la liste de Manon Aubry, celle de Jean-Luc Mélenchon, a appelé à un soulèvement un petit peu à l'image de ce qui se passe dans les universités américaines, et c'est pas du tout digne d'un élu. On parlait de manifestations pacifistes, moi j'ai quand même le souvenir d'une de vos journalistes, Audrey Berthaud, et son JRI Raphaël, qui s'est retrouvé la semaine dernière molesté, à qui on a taper la caméra. Bon, je ne suis pas tout à fait pacifiste et ça devrait, il devrait normalement y avoir les plus grandes sanctions possibles, une enquête administrative évidemment, et si possible, l'arrêt de certains financements comme Valérie Pécresse l'a fait pour la région Île-de-France.
Mais Jules, dans ce que vous évoquez, il y avait sur place Émeric Caron. Bon, à partir du moment où c'est un élu de la République, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un élu de la République, et qu'il est là pour dire que ce que font les étudiants, c'est la fierté de la France. Il est évident que des gens relativement jeunes se disent « bah moi aussi je veux faire partie de ce que représente la fierté de la France ». Qu'est-ce qu'ils font ? Ils testent les limites de la République, un point c'est tout. Mais quand on est chef de l'État et quand on est ministre, bon, on fait quand même attention parce qu'on ne peut pas envoyer les CRS et les policiers avec des matraques sur des jeunes adultes. Alors quand ce sont des lycéens, là on part dans l'adolescence, c'est le pompon.
C'est pour ça qu'il leur faut des cours de culture politique et pas des cours de marketing. C'est pas avec des cours de marketing qu'on apprend ensuite à avoir une idée de la politique.
Isabelle Piboulot nous a rejoint à nouveau pour un nouveau point sur l'actualité. C'est à vous, Isabelle.
Les négociations se poursuivent en Égypte pour une trêve entre le Hamas et Israël, associée à une libération d'otages. Une délégation du mouvement terroriste est actuellement au Caire. Des progrès significatifs ont été réalisés. Selon une source de haut rang, les médiateurs égyptiens sont parvenus à une formule consensuelle sur certains points de désaccord. En France, le président du CRIF appelle à lancer une dynamique collective lundi lors des assises de lutte contre l'antisémitisme. L'ensemble des partis politiques qui ont un groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat sont invité à y participer. Jonathan Arfi promet de pointer les confusions morales, politiques et idéologiques qui traversent la société. Et puis ce matin, des activistes militants pour un Tibet libre se sont rendus place Charles de Gaulle. Dictateur Xi Jinping, ton temps est écoulé, ou encore non au génocide commis par Xi Jinping, pouvait-on lire sur des banderoles. Le dirigeant chinois est attendu en France lundi et mardi, ce qui provoque par ailleurs la colère de la communauté ouïghour française. Cette visite est selon elle un encouragement à l'oppression chinoise.
Merci Isabelle, à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On en vient maintenant à la situation à Châteauroux. Il y a une marche blanche organisée cet après-midi en mémoire du jeune Mathis, 15 ans, tué le 27 avril dernier par un autre mineur de 15 ans. Les autorités disent attendre entre 3 et 10 000 personnes avec une sécurité renforcée, nous indique le préfet, parce que les autorités craignent des débordements et redoutent, selon leurs termes, une récupération politique. Écoutez le préfet de l'Indre qui était avec nous ce matin.
On a une jauge qui est évaluée entre 3 000 et 10 000 personnes. Je pense que la jauge sera haute. On voit des témoignages extrêmement touchants et une volonté d'être présent cet après-midi à Châteauroux pour cette marche blanche qui va durer à peu près 2 heures et sur un parcours d'à peu près de moins de 2 kilomètres. Il y a des volontés de vengeance, en tout cas c'est ce qui a été exprimé sur certains réseaux, et nous devons tout faire pour ne pas perturber la volonté de cette famille frappée par le deuil, pour faire en sorte que cette déambulation se déroule dans le calme.
Avant de lancer la discussion, je propose d'aller prendre la température sur place. Notre équipe est à Châteauroux avec Mathieu Devez et Jules Bedeau. Bonjour Mathieu. Alors d'abord, quelle est l'atmosphère autour de vous ? Et puis vous avez pu constater que ces dernières heures, les hommages se multiplient à l'approche de cette marche blanche.
Effectivement, cher Thomas, une marche blanche dans un esprit serein et solidaire, c'est le souhait de la famille de Mathis, cet adolescent de 15 ans, mort il y a tout juste une semaine après avoir été poignardé. Et ce matin, il y avait énormément de tristesse et de dignité lors d'un premier moment de recueillement. Des dizaines de personnes se sont relayées à l'espace funéraire d'une commune voisine de Châteauroux. Il y avait notamment la famille, les proches de Mathis et des habitants de Châteauroux. La musique, beaucoup de musique, les morceaux préférés de l'adolescent et puis un registre de condoléances avait notamment été mis à la disposition de ces dizaines de personnes qui se sont relayées pour rendre hommage à l'adolescent de 15 ans. La marche blanche débutera donc à la place Lafayette, une place emblématique de la ville de Châteauroux, aux alentours de 15h30. Des milliers de personnes, vous l'avez entendu, peut-être 10 000, c'est ce qu'annonçait notamment le préfet de l'Indre, seront présentes pour rendre hommage à Mathis. Il est important de préciser que la famille appelle appelle à nouveau à ce qu'il n'y ait pas de récupération politique. Et pourtant, dès hier soir, des dizaines de militants identitaires se sont réunis. Ils étaient masqués, vêtus de noir. Ils se sont réunis sur la place de l'Hôtel de Ville avec des slogans comme « Justice pour Matisse » ou encore « Français, réveille-toi ». Et il est important de préciser que la famille appelle au calme et à une marche blanche pleine de sérénité et de solidarité.
Merci beaucoup Mathieu Devez, merci également à Jules Bedeau qui vous accompagne. Et on suivra cet après-midi sur l'antenne de CNews, grâce à vous, cette marche blanche en mémoire du jeune Matisse. Alors on l'a entendu, il y a des craintes sur la sécurité autour de cette marche. On entend aussi le message de la famille sur le fait qu'ils ne veulent pas de récupération politique. Que vous inspire ce message du préfet de l'Indre à quelques heures de cette marche, Jules Torres? Il est dans son rôle?
Non, il est complètement dans son rôle. Il a raison de prévoir, d'avertir la population sur le fait que ça pourrait être dangereux, sur le fait qu'il faut bien se comporter dans ce genre de marche qui relève d'une solennité qui est... n'est pas le lot de ce qu'on peut connaître tous les jours. Mais c'est vrai que sur cet aspect, moi, récupération, ça me fait toujours un petit peu sourire. Parce que, en fait, sur ces fêtes d'hiver qui sont en réalité des fêtes de société, qui interviennent de manière récurrente, on dresse des constats, des bilans sur la politique à mener, sur les réponses à apporter à un certain nombre de sujets. Et qui aujourd'hui dresse ces constats-là et apporte les propositions, c'est les personnalités politiques. Donc moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut reprocher à un politique de se saisir d'un sujet avec des propositions, avec des mesures, et ensuite réclamer, dénoncer une certaine récupération politique qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. Parce qu'en fait, c'est le but d'un politique de répondre aux problèmes de la société.
On va parler justement de la réponse possible à apporter sur la justice des mineurs, notamment. Mais d'abord, je voulais qu'on fasse un point sur l'enquête, Célia Barotte, du service police-justice de CNews. On est une semaine après les faits maintenant. Où on en est dans l'enquête?
Bien, les investigations se poursuivent pour connaître le déroulé exact des faits, puisque même si un mineur de 15 ans a été placé en détention provisoire, sa mère a été placée sous contrôle judiciaire, il faut connaître les déroulés exacts des faits, l'origine aussi de cette rixe, les investigations, les témoignages, aussi les déclarations du mineur en garde à vue ont permis de comprendre que les deux garçons se connaissaient avant les faits, qu'ils s'étaient réciproquement insultés et qu'il y avait eu aussi un échange de coups avant les faits. La victime a dit avoir reçu un coup de poing de la part de Matisse et c'est pour cela qu'il est monté dans son immeuble. Il a récupéré un couteau et qu'il a décidé de poignarder Matisse avant de prendre la fuite. Il y a beaucoup d'émotions sur place, beaucoup d'incompréhension puisque les faits se sont déroulés dans un quartier de réputation calme, paisible, mais beaucoup de voisins connaissent la famille de l'agresseur et craignent aussi parce qu'il s'agit d'une famille qui a souvent montré un comportement de violence. L'agresseur a souvent été vu avec un couteau à la main et il s'en vantait de ça. Et tout le monde avait l'impression qu'il y avait une autorité familiale dans le quartier par rapport à cette famille afghane, mais en situation régulière sur le territoire.
Vous êtes allé sur place cette semaine et ce que vous avez constaté, c'est à la fois, on imagine, la sidération, une très grande tristesse. On comprend bien. Est-ce qu'il y avait aussi un peu de colère et d'exaspération chez certains habitants? Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues aussi?
Oui, beaucoup de colère de la part aussi de retraités qui avant habitaient ce quartier. Ils m'ont dit que maintenant c'est un quartier qui accueille de nombreuses familles afghanes qui ont l'impression aussi d'avoir autorité sur le quartier. Beaucoup de personnes aussi craignent pour la suite des événements puisque la famille est toujours présente dans le quartier Saint-Denis.
Aucune sécurité renforcée d'ailleurs.
Aucune sécurité. D'accord. Lorsque j'étais sur le terrain, peut-être que Mathieu Devez pourra nous l'expliquer dans la journée, mais des riverains souhaitent déménager puisque la mère est placée sous contrôle judiciaire, elle est donc pas en détention provisoire et on risque, certains riverains craignent qu'il y ait des représailles, des répercussions. On a eu énormément de témoignages en soutien à Matisse, mais beaucoup de témoignages en anonyme. C'est ça qui est dingue.
Patrice Arditi, on le voit bien, il y a une attente d'une partie des habitants de Châteauroux, mais pas seulement, finalement, des Français de manière générale, sur des réponses politiques à apporter à cette affaire. Alors évidemment, il ne s'agit pas de récupération politique, proprement dit, mais il faut quand même apporter une réponse à cette exaspération, cette incompréhension d'une partie des Français.
Quand on regarde les faits, de toute façon, il y aura une récupération politique, c'est certain. Ça a commencé par les affiches hier, quand on voit français, français, réveille-toi, ça veut absolument tout dire et ça va certainement pas s'arrêter, d'où la peur de la population qu'il y ait un phénomène comme on a pu en connaître en Sicile ou en Corse il y a près d'un siècle. Maintenant,
c'est pas ça la peur de la population, excusez-moi. Pardon ? C'est pas ça la peur de la population. Là, actuellement, la population de Châteauroux, elle a peur que leurs enfants de 15 ans, ils se fassent tuer
c'est justement pour ça que je parlais de loi du talion. Et, ces gens-là ont des familles. Bon, évidemment qu'il y a une récupération. Il y a une origine afghane. Il y a probablement une famille qui a eu un parcours très... très chaoteux, si l'on peut dire. Mais enfin, je crois savoir qu'une fratrie est placée dans des foyers. Bon, ça n'est pas la première fois que le meurtrier présumé, parce qu'on est obligé de dire ça, le meurtrier présumé se fait avoir avec un couteau. Se fait avoir avec un couteau.
Il a été mis en examen
pour vol aggravé avec violence. Il a été remis en examen pour vol en réunion.
Il n'y a pas eu de condamnation, mais il était
Et c'est curieux parce qu'il faut expliquer au vulgum pécus, à tout le monde et à moi, la raison pour laquelle son casier judiciaire est vierge. Ça aussi, c'est une inconnue. Non, bon. Maintenant, en toile de fond, il y a quand même la famille. Il y a quand même la famille et le père qui voudrait que tout se passe bien parce que sinon, eh bien, cette épreuve de deuil absolument insurmontable, elle ne pourra pas se concrétiser normalement. Et comme j'entendais quelqu'un de la famille parlait hier, je ne sais plus où, le petit Matisse serait mort de foi.
On va parler juste après la pause de la réponse pour la justice des mineurs, mais d'abord, en un mot, Laure-Alice Bouvier, sur l'émotion cet après-midi, qu'est-ce que ça vous évoque, cette marche blanche? Vous comprenez aussi les craintes des autorités?
Bien sûr, parce que le préfet a tout à fait raison de mettre en place des mesures. Il s'agit d'éviter un potentiel trouble à l'ordre public. Et je reviendrai sur le cas de la récupération politique. Je ne rejoins pas Jules sur ce point, mais je rejoins parfaitement Patrice sur ce qu'il a dit. Il y a une récupération politique, mais récupération politique ne veut pas dire solution apportée. Des solutions apportées, je pense qu'il y en a.
Et on va en parler justement juste après la pause. Midi News Weekend continue dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans Midi News Weekend, toujours avec mes invités, Laure-Alice Bouvier, Patrice Arditi, Jules Torres et Célia Barotte. Dans quelques instants, on va s'interroger sur la réponse que peut apporter le gouvernement à cette violence chez les mineurs. Mais d'abord, c'est l'heure d'un nouveau point sur l'actualité avec Isabelle Pibolo. Rebonjour Isabelle.
Fusillade à Sevran, en Seine-Saint-Denis, au moins un mort et plusieurs blessés, dont trois graves, sont à déplorer. Un drame que le maire de la commune attribue au trafic de drogue. Peu avant minuit, dans le quartier des Baudottes, deux individus ont ouvert le feu depuis leur véhicule avant de prendre la fuite. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade. Une enquête a été ouverte, notamment pour homicide volontaire en bande organisée. Une marche blanche en hommage à Matisse se tiendra cet après-midi à Châteauroux. Le cortège s'élancera à 15h30, place Lafayette. La famille invite les participants à faire preuve de respect tout au long du parcours. Selon le préfet de l'Indre, entre 3000 et 10 000 personnes sont attendues. Matisse, 15 ans, est décédé samedi dernier après avoir reçu plusieurs coups de couteau lors d'une rixe. Et puis un camp de migrants démantelé hier soir à Tunis. Réfugiés, demandeurs d'asile, femmes et enfants, près de 300 personnes originaires d'Afrique subsaharienne s'étaient installées devant des agences onusiennes. Beaucoup ont été conduits à la frontière algérienne alors que des dizaines d'autres ont pris la fuite.
Merci beaucoup Isabelle et à dans 15 minutes pour un nouveau point sur l'information. On en parlait avant la pause, quelle réponse par rapport à la justice des mineurs et cette hyperviolence qui gagne nos rues? Alors il y a plusieurs mesures qui ont été avancées, mises en avant en tout cas par le gouvernement, et il y a aussi des villes qui tentent d'innover en quelque sorte, c'est le cas à Nice par exemple, où un couvre-feu est désormais en vigueur pour les jeunes de moins de 13 ans. Ils n'ont pas le droit d'aller dans la rue après 23 heures. Alors nos équipes sont allées voir sur le terrain si c'était efficace. Regardez ce reportage de Célia Gruyère.
La nuit tombe et les moins de 13 ans n'ont plus le droit d'être dehors. À Nice, un couvre-feu est entré en vigueur ce mercredi pour ces mineurs. Un couvre-feu imposé à partir de 23 heures et jusqu'à 6 heures le matin. L'arrêté mentionne la multiplication des mises en cause de mineurs dans des faits de délinquance, soit en tant que victime ou même en tant qu'auteur. Les habitants sont partagés sur cette décision.
Je ne sais pas aujourd'hui, est-ce que c'est à la mairie ou aux autorités de faire ça? Je pense qu'en priorité, c'est aux parents de le faire. Et moi, mon gamin à 13 ans, il était à la maison. Hein.
C'est quelque chose pour pallier à des carences. Alors la carence, en l'occurrence, de l'État et de la législation afférente aux mineurs, mais également une carence des parents.
Un tel couvre-feu avait déjà été institué à Nice à partir de 2009, mais avait été abandonné lors de l'épidémie de Covid en 2020. Aujourd'hui, Nice n'est pas la seule ville à adopter cette politique. D'autres comme Béziers ou encore Cagnes-sur-Mer imposent également cet arrêté.
Le couvre-feu, bonne ou mauvaise idée? Je vous pose la question. On a un peu parfois l'impression que c'est une forme de constat d'échec. On ne peut pas vraiment résoudre le problème sur le fond, alors on enferme, si je puis dire, les jeunes, Laure-Alice Bouvier. Est-ce que c'est aussi votre lecture ou au contraire, vous êtes plutôt favorable à ces mesures?
Non, je trouve que oui, c'est un constat d'échec potentiellement. Après, la mesure n'est pas mauvaise à mon sens. Après, pourquoi 13 ans? Pourquoi pas davantage?
Pourquoi 23 heures?
Des jeunes, oui, voilà, pourquoi 23 heures? On pourrait très bien envisager jusqu'à 16 ans et puis à partir de 16 ans, lever l'excuse de minorité, par exemple. Enfin, on aurait d'autres choses à envisager. Il va falloir aussi voir si cet arrêté ne risque pas d'être annulé par le tribunal administratif, comme cela avait été déjà le cas à Béziers en 2018. Parce qu'il faut rappeler que la liberté d'aller et venir, c'est une liberté fondamentale et que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, eh bien, si le juge administratif estime que cette mesure est disproportionnée, eh ben, il peut l'annuler. Ça avait été le cas à Béziers en 2018. On va voir ce qui va se passer là. Il y aura certainement des contestations de cet arrêté. Mais après, je trouve que la mesure en elle-même, elle n'est pas mauvaise parce qu'elle responsabilise les parents. Mais dans tous les cas, un enfant de 13 ans n'a rien à faire dehors dans la rue, ni même de 14 ou de 15 ans. Moi, je pense qu'ils auraient même dû élever l'âge et qu'il faut compléter ça par des mesures pénales dont j'aurai sûrement l'occasion de vous parler après.
Bah, allons sur ces mesures pénales. Il y a notamment ce sujet de l'excuse de minorité qui revient régulièrement dans le débat. On a interrogé dans un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, on a interrogé les Français s'ils souhaitent faire évoluer l'excuse de minorité. Vous allez voir, la réponse est sans appel. Sur la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves, 3 Français sur 4 sont pour et on peut même observer une hausse de ce chiffre par rapport à un sondage similaire l'an dernier. Patrice Arditi, l'excuse de minorité, on sait, ça a été mis en avant par le gouvernement qui veut une réflexion sur une possible suspension ou atténuation de l'excuse de minorité. Est-ce que c'est une piste qu'il faut explorer?
J'ai un chiffre là, sur 1000 interpellations, 52% des mises en cause sont des mineurs. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors franchement, un adulte qui commet un méfait, c'est déjà, j'allais dire disgracieux, épouvantable. Un mineur qui commet des méfaits, on a l'impression que c'est moins épouvantable parce qu'il est, il est quand même un petit peu jeune. Bon, bah, il doit être éduqué, c'est ce que Laure-Alice laissait entendre tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, je ne pense pas qu'on puisse éduquer quelqu'un qui a 17 ans et demi. À cet âge-là, je veux dire, on s'est forgé et il y a vraiment peu de chances que quelques cours d'empathie puissent servir à quoi que ce soit. Certains. Pour ce qui concerne Nice, c'est 11 quartiers qui sont impactés, 11 quartiers dont le centre-ville. C'est important parce qu'il y a énormément de touristes, également le Vieux-Nice qui est impacté par ce couvre-feu. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que la décision, si elle est concrétisée, elle durera jusqu'au 31 août. Ça englobe les Jeux Olympiques. À mon avis, ça n'est pas pour rien. Maintenant, je pense qu'un maire qui essaye de protéger sa population, eh bien, on peut pas lui taper dessus.
Sur l'excuse de minorité, Laure-Alice Bouvier, sans nous perdre dans des détails techniques, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en place actuellement et ce vers quoi on pourrait aller si demain il y avait une réforme de cette excuse de minorité?
Oui, alors moi je suis clairement pour une réforme de l'excuse de minorité. L'excuse de minorité, ça signifie qu'elle est prévue par le Code de la justice pénale des mineurs, qui part d'une ordonnance de 1945, donc qui n'est plus du tout adaptée aujourd'hui, qui a été réformée en 2021, qui fait la part belle aux sanctions, on va dire, éducatives, mais qui en réalité montre clairement ses carences. Et l'excuse de minorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mineur, il encourt la moitié de la peine encourue par un majeur, et si jamais il encourt perpétuité, il encourt 20 ans. Cette excuse de minorité, elle n'a quasiment jamais été levée. Elle a été levée 2 fois. dans deux cas simplement. J'aimerais quand même rappeler le cas, parce que celui-là il est quand même très symptomatique, le cas de la petite Shaina qui avait 15 ans, qui a été tuée par son compagnon de 17 ans, donc à quelques mois de la majorité, lui, qui l'a lardé de coups de couteau, qui l'a brûlé vive, et rien ne distingue en réalité ce crime de celui d'un adulte. Donc moi je suis pour la levée de l'excuse de minorité à partir de 16 ans, notamment pour les crimes graves, parce que on a voulu mettre en place une excuse de minorité pour prendre en compte le manque de discernement des enfants, en tout cas des jeunes. En réalité, on a une délinquance qui est de plus en plus précoce et qui s'installe de plus en plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un outil qui est totalement méconnu, qui est prévu par le Code de l'action sociale et des familles et qui me permet de rejoindre ce qu'a dit très bien Célia tout à l'heure et qui a été très professionnelle dans son enquête. Elle nous a effectivement expliqué, c'est vrai, elle nous a effectivement expliqué que quand elle est allée à Châteauroux, tout le monde savait en fait que ce jeune, il était dangereux, qu'il avait des problèmes avec la famille, que les policiers intervenaient régulièrement au domicile familial, que le père avait aussi des difficultés. Alors moi j'ai lu qu'il aurait été régulièrement alcoolisé. L'école savait qu'il était en difficulté scolaire. Et puis bref, tout le monde savait, autant les particuliers, les gens qui le côtoyaient, que le personnel autour de lui. Et le code de l'action sociale des familles prévoit un outil qui, je pense, devrait être connu de tous, qui s'appelle l'information préoccupante. L'information préoccupante, ça veut dire que n'importe qui, un particulier, l'école, la police, un médecin, n'importe qui en fait, si jamais il constate un comportement dangereux, soit envers un mineur, soit de la part d'un mineur, il peut en avertir un service départemental qui s'appelle le CRIP, qui lui ensuite va mener une enquête, va éventuellement ensuite saisir le procureur et qui va pouvoir saisir le juge des enfants, ce qui permet d'éviter en amont. Et je rajoute un point très important, parce qu'on parlait de la loi du talion tout à l'heure, pour éviter justement on en vienne à tous se taper dessus et que chacun se fasse justice soi-même en disant la justice ça fonctionne pas, donc autant se faire justice soi-même. Je rappellerai que l'information préoccupante, elle est totalement anonyme, c'est-à-dire que si vous dénoncez le comportement d'un mineur qui vous semble dangereux, personne ne le saura.
Alors parmi les pistes qui ont été évoquées par le gouvernement, il y a donc l'atténuation possible de l'excuse de minorité. Il y a aussi une circulaire qui a été délivrée, Célia, pour durcir en quelque sorte les réponses en ce qui concerne les mineurs. Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois mesures qui sont dans cette circulaire?
Oui, on parle de travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Le garde des Sceaux a précisé dans une circulaire envoyée au procureur les contours de cette mesure qui doit entrer en vigueur dès la rentrée des vacances de Pâques. Donc, dans cette circulaire figurent plusieurs mesures à destination donc des jeunes auteurs de dégradations, d'injures ou de troubles à l'ordre public. Il s'agit d'une action en trois temps. Premièrement, une activité réparatrice d'une durée de 20 heures maximum. Il pourra s'agir d'une activité de restauration du patrimoine, d'une activité écologique ou encore une contribution à une association. Deuxièmement, une séquence de réflexion sur le vivre ensemble, une action éducative d'une durée de 4 heures maximum pour rappeler les droits et les devoirs du citoyen et les valeurs de la République. Enfin, le texte parle d'une action de soutien pédagogique entre la famille et l'établissement scolaire. Les mineurs concernés par ces mesures devront débuter ces travaux d'intérêt éducatif dans un délai de 3 mois maximum après la décision du parquet.
Merci Célia. Jules Torres, un peu comme sur le sujet précédent, on a l'impression que Gabriel Attal est parfois un peu seul aussi sur ce sujet de la violence des mineurs. Il consulte, on l'a vu recevoir des représentants politiques cette semaine à Matignon. Mais par exemple, sur l'atténuation de l'excuse de minorité, il a été désavoué par sa ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui fut, rappelons-le, garde des Sceaux.
Moi, ce qui me frappe, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le décalage entre les propos très martiaux, très sévères, qui peuvent être tenus, et la faiblesse des réponses. Là, j'entendais dans le sujet de Célia une séquence de réflexion sur le vivre ensemble. J'ai hâte que ce jeune Afghan de 15 ans qui est habitué à se déplacer dans la rue avec un couteau participe à cette période de réflexion sur le vivre ensemble.
C'est-à-dire que les mesures ne sont pas adaptées à la réalité.
Non, mais le problème, c'est que toutes ces petites pistes de réflexion sont super, mais si on y a quand même... J'ai l'impression qu'on ne le traite pas depuis le début et que le gouvernement ne le traite pas, c'est le sujet migratoire. En fait, le problème, c'est que depuis 2016, on a accueilli plus de 100 000 Afghans qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, les mêmes principes que nous. Pour une partie d'entre eux. Et le problème, c'est que si on traite pas ce sujet-là, et j'ai l'impression que le gouvernement oublie de le traiter, je pense qu'on passe à côté complètement du sujet.
Et pour que ça fonctionne, qu'on arrive à gérer le problème, il ne faut pas s'axer sur les flux migratoires. Si. Il faut faire quelque chose d'ensemble. Hein, parce qu'il y a des malfaisants qui sont bien français, bien français, et puis il y a effectivement des gens d'origine étrangère.
Mais
si on parle sans arrêt de personnes issues d'origine étrangère, ça freine absolument tout, parce qu'il y aura évidemment la boîte d'allumettes LFI qui va intervenir immédiatement.
Non, mais vous, pour essayer de couper les branches, moi, je vous propose de couper la racine.
Mais couper la racine, on va pas renvoyer tous les étrangers.
Non, mais en revanche, on peut couper les flux pour éviter qu'on ait ce genre de débat.
Alors, c'est à très longue haleine, je ne serais plus là.
Mais c'est vrai qu'il y a un sujet aussi, au-delà des mesures concrètement, de l'impuissance de l'État. On a parfois l'impression que l'État est complètement démuni face à ces violences qui se répètent et que finalement, à chaque fois, les mesures qui nous sont annoncées, alors parfois, il y a des effets d'annonce qui sont intéressants, mais c'est vrai que dans le détail, les mesures, on se dit, bon, ça ne réglera pas la situation à long terme.
Ben c'est vrai, et il y a un besoin de réforme en profondeur, mais déjà un besoin de réforme en profondeur des textes, et il faut être beaucoup plus ferme face à ces jeunes qui sont de plus en plus violents. Déjà, rien que le système dans lequel on les juge en deux fois, parce que je rappellerai que la justice pénale des mineurs prévoit une première audience sur la responsabilité et une deuxième plusieurs mois après sur la peine. Évidemment, c'est pour ça qu'ensuite on n'a pas qu'on n'a pas véritablement de réponse pénale. Pour le jeune qui a attaqué Matisse, il était connu des services de police, mais pour autant il n'avait commis que des délits, donc c'est du correctionnel, et donc par conséquent, vu son âge, il ne pouvait pas être placé autrement.
Des délits avec armes.
Avec armes en plus.
En plus
avec armes. Ce qui en dit long sur l'évolution des jeunes et de la violence dans notre société. Et donc le problème, il est aussi là. Et je rajouterai un mot sur les travaux d'intérêt général. C'est une bonne idée du gouvernement, ces travaux d'intérêt général. Mais on a déjà eu le cas en 2023. Il y a déjà eu une circulaire en 2023 qui proposait des travaux d'intérêt généraux. Alors, il faut savoir que là, la seule différence, c'est qu'on ne pouvait pas leur donner des travaux d'intérêt général avant qu'ils aient 16 ans. Là, maintenant, on va pouvoir leur donner à partir de 13 ans. Mais en réalité, quand on regarde les statistiques, on voit qu'ils ne sont absolument pas effectués. Il faut des mesures beaucoup plus fermes.
C'est pas vraiment dissuasif.
C'est pas dissuasif. Il faut des mesures beaucoup plus fermes. Il faut les mettre dans des centres fermés. Par exemple, des EPID, qui sont des établissements qui sont gérés par des militaires, qui fonctionnent. Alors, l'idée n'est pas que les...
C'est pas mal.
Oui, l'idée n'est pas que les militaires soient là pour faire du babysitting, hein, mais ça les réinsère. Et ça fonctionne vraiment parce qu'il y a eu des statistiques.
On a vu le Premier ministre et le garde des Sceaux à Nice, il y a deux semaines, pour un internat, justement, pour les jeunes de moins de 15 ans, pour essayer de les remettre dans le droit chemin. On arrive au terme de l'expérience, on verra quel bilan il tire de tout ça. Un dernier mot avant de passer à notre sujet.
Il n'est pas assez fort, l'internat, je pense.
On allait parler de fermeté, mais de qui se fiche-t-on, là? Je reviens au couvre-feu pour les mineurs. Vous savez ce qu'ils risquent? Ils sont raccompagnés par la police, ce qui me paraît absolument normal, donc on avertit les parents. Il y a un rappel à l'ordre, oh là là, ça doit faire peur. Et alors, en cas de récidive, alors là, c'est une catastrophe. Une amende de 38 euros.
Ah oui, non, mais c'est lamentable. C'est...
Alors, il y a un sujet où on a vu les jeunes être violents aussi. Ce sont les émeutes qui ont eu lieu l'été dernier en France. Et il y a un rapport parlementaire qui est assez surprenant et qui fait une proposition qui, elle aussi, peut surprendre. Créer un fonds émeute sur le modèle du régime d'indemnisation des risques d'attentats. On va en parler dans quelques secondes avec l'auteur de ce rapport, le maire de Vesoul, Alain Chrétien. Mais d'abord, on s'arrête quelques minutes pour le point sur l'actualité d'Isabelle Piboulot.
Fusillade dans le nord-est de Toulouse. Tôt ce matin, un homme est décédé. Un autre se trouve en urgence absolue. Les faits se sont passés à proximité d'une discothèque dans un quartier excentré de la ville rose. Les victimes se trouvaient dans un véhicule quand elles ont été prises pour cible. Le ou les auteurs des tirs ont pris la fuite. Les circonstances du drame restent à éclaircir. Hier soir, dans le 6e arrondissement de Paris, Bruno Le Maire a percuté avec son véhicule un cycliste qui avait grillé un feu rouge. L'individu a été conduit à l'hôpital Cochin.
blessé à l'arcade sourcilière et souffrant d'un possible traumatisme à la tête. Le ministre de l'économie, lui, n'a pas été blessé et a été testé négatif au dépistage de drogue et d'alcoolémie. Et puis la montée des eaux continue dans le sud du Brésil. Le bilan provisoire des victimes s'alourdit. Au moins 37 morts et 74 disparus. Les dégâts matériels sont aussi considérables. Les zones d'habitation sont noyées à perte de vue. De nombreuses routes ont été détruites. Ces intempéries sont exacerbées par le réchauffement climatique et le phénomène El Niño.
Merci beaucoup Isabelle et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité. On est en direct avec Alain Chrétien, maire Horizon de Vesoul. Et bonjour d'abord et merci bonjour. D'être en direct avec nous. Vous êtes l'auteur d'un rapport parlementaire qui préconise de créer un fonds d'indemnisation pour les émeutes. Alors cette proposition a un peu étonné. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à faire cette proposition ?
Alors on a beaucoup de communes qui ont été touchées par les émeutes et qui n'ont plus d'assurance. Les assureurs se sont retirés complètement de la protection des écoles, des crèches. Donc il faut qu'on fasse revenir les assureurs autour de la table avec les collectivités et que l'assureur ne soit pas seul à payer. On a eu 200 millions de dégâts. 200 millions de dégâts, donc un, il faut que les casseurs payent. On est bien d'accord, Gabriel Attal l'a dit, on est entièrement d'accord. Sauf qu'on ne va pas trouver 200 millions dans les poches de ces casseurs. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc il va quand même falloir trouver de l'argent pour reconstruire et réinvestir. Les assureurs doivent fonctionner aussi de manière plus souple et il faut que l'État vienne en garantie. Il existe aujourd'hui un fonds qu'on alimente tous via nos quittances d'assurance qui est spécifiquement dédié aux attentats et qui n'a pas encore été activé depuis le 11 septembre 2001. Et on propose avec Jean-Yves Dagès, le coprésident de cette mission, ancien patron de Groupama, d'étendre la compétence de ce fonds aux émeutes afin que les assureurs aient la garantie d'être confortés dans leur remboursement. Il ne s'agit pas d'une taxe supplémentaire, il ne s'agit pas de faire payer les Français, il s'agit d'utiliser ce fonds qui existe déjà et d'en élargir la compétence. Autre sujet, il faut que l'État se débrouille pour qu'on n'ait pas des émeutes comme celle-là tous les étés. Parce qu'effectivement, si à chaque été on a 200 millions de dégâts, là on ne sait plus faire. Là, on ne sait plus financer et ce sera insurmontable, ce sera quasiment la guerre civile. Donc il faut aussi que l'État s'organise pour anticiper tous ces sujets, pour anticiper ces émeutes dans des quartiers prioritaires ou dans des communes qui sont justement la cible de ces émeutiers et qui justement n'ont plus d'assurance. La maire de Denain, il y a quelques jours, s'en est émue. Elle a été, c'est pas de sa faute s'il y a des émeutes chez elle, sauf que les assureurs se sont retirés parce qu'ils ne veulent pas payer seuls.
Mais est-ce que vous comprenez quand même que pour certains Français, ils ont l'impression que finalement, c'est eux qui vont finir par payer la facture, puisque c'est leur contribution via leur quittance d'assurance qui vont financer ces réparations?
Sauf que je l'ai dit, si on arrive à trouver 200 millions dans la poche de ces délinquants, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut que la justice passe, ça va mettre du temps, et je ne suis pas sûr qu'on arrive à trouver cette somme. Donc au bout du compte, il va bien falloir que quelqu'un paye pour reconstruire ces écoles ou ces crèches. Naturellement, les communes vont être obligées de payer, mais il faut que ce soit les communes, les assureurs, l'État et naturellement les délinquants, mais dans la mesure de ce que la loi, là aussi, propose comme indemnisation. Et ça n'ira pas forcément très loin. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à ces 200 millions. Mais je le répète, il faut aussi que ces émeutes elles ne se reproduisent pas tous les ans. On a eu 2005, on a 2023. Alors, si chaque année, on a la même chose, là, effectivement, on n'a pas de solution, on n'a pas de réponse. Il faut que l'État s'organise pour que tout ça soit anticipé, jugulé. Il y a des renseignements territoriaux, il y a des forces de police prépositionnées. Les maires sont aussi des interlocuteurs extrêmement forts pour aider les forces de police à juguler tout ça. Mais je le répète, si ces émeutes se répètent tous les ans, là, la mission qu'on a conduite n'aura aucune utilité parce qu'on est dans une échelle beaucoup plus importante.
Merci beaucoup Alain Chrétien d'avoir répondu à nos questions ce midi dans Midi News Weekend. On va maintenant débattre en plateau de cette proposition. Laure-Alice Bouvier, je vous voyais réagir aux propos du maire de Vesoul, Alain Chrétien.
Oui, alors moi ce qui me terrorise un petit peu, c'est que monsieur le maire dit qu'il ne faut pas que ça se reproduise tous les ans, mais si on crée un fonds spécifique pour les émeutes, c'est bien significatif que dans notre société s'installent des émeutes et que
le message que ça
et c'est le message que ça véhicule, c'est qu'on va en avoir d'autres de plus en plus. Ça c'est le premier problème et que ça va pas s'arrêter. Le deuxième problème, c'est bien évidemment qui va financer ça. Est-ce que ça va être justement tous les Français? Est-ce que ça va être... Alors moi, ce que j'ai lu, c'est que le fonds serait alimenté par les 45 millions de contrats d'assurance des Français. Donc ça veut dire que ça va peser aussi sur toute la population. C'est aussi un problème. Donc ça rajoute une difficulté. Donc c'est assez compliqué. Et j'ai un dernier point, puisque Monsieur le maire parlait aussi de l'État qui ne pouvait pas répondre à toutes les indemnisations. Il y a un mécanisme également qu'on peut utiliser lorsqu'on est victime dans les émeutes, victime matérielle ou physique, qui est la responsabilité sans faute de l'État. On peut engager la responsabilité sans faute de l'État et obtenir une indemnisation.
Patrice Arditi, on a vu le Premier ministre dire « tu casses, tu répares », mais finalement c'est quand même les Français qui payent à la fin.
Qui paye et qui est obligé de mettre des sparadraps. Maintenant, on sait ce que c'est qu'un contrat d'assurance. On sait très très bien que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle ou un attentat, les assureurs sont là en première ligne, même s'ils font du surplace pour pas trop s'avancer. J'écoutais le maire, moi j'ai un autre chiffre, les émeutes de juin dernier, elles auraient coûté 730 millions. C'est quelque chose de considérable. Comment on fait lorsqu'une commune, et c'est arrivé à plusieurs reprises, une commune peut déplorer jusqu'à 600 000 euros de dégâts? Il faut bien à un moment donné que ce soit remboursé. Enfin, il faut que les façades soient reconstruites. Enfin, il y a une foule de choses. Alors, par quel miracle? Par l'argent de l'État? Où trouver l'argent de l'État?
Le gouvernement,
il essaye d'économiser. Ah oui, il y a quand même quelque chose. Là, on est en pleine vacances, là. Le 1er mai, le 8 mai. Vous savez combien ça coûte aux Français? 4 milliards. Peut-être que là, en supprimant un petit jour...
Vous allez nous supprimer le lundi de Pentecôte.
Il y a moyen d'amasser.
Alain Chrétien veut apporter une réponse. Allez-y, très court si vous pouvez, on arrive au terme de cette émission.
Pour les collectivités, c'est 200 millions de dégâts. Naturellement, il y a 1 milliard pour la France entière, mais nous, ça nous a coûté 200 millions. Donc on ne pourra pas payer ces 200 millions. Il faudra bien aussi que ce fonds, qu'on ne crée pas, mais qu'on élargit, fonds attentat élargi aux émeutes, qui existe déjà... permettre d'être une garantie pour faire revenir les assureurs. C'est les assureurs qui payent, c'est pas les Français. C'est ce qu'on paye aux assureurs qui ensuite nous le remboursent. Donc là-dessus, on n'est pas
Merci.
Pour une taxe supplémentaire, c'est clair.
Merci beaucoup Alain Chrétien. Un dernier mot, Jules Torres, pour finir. Les émeutes urbaines sont en train de devenir un aléa, comme un autre, comme les aléas climatiques, c'est ça?
Ça montre non seulement que les émeutes vont se reproduire et l'insécurité en France est de moins en moins gérable, et ça montre aussi et surtout... la démission de l'État à son paroxysme.
On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les quatre. Ce fut un plaisir de passer cette heure en votre compagnie. J'adresse d'ailleurs un salut amical à Thierry Cabanne qui prend quelques jours de repos. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Face à Onfray, présenté par Laurence Ferrari. Et puis ce sera Vincent Fandèche pour 180 minutes info. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour Midi News Weekend à 11h le dimanche. À demain.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.